Lecture du livre des Actes des apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia.
Voici le jour que fit le Seigneur, alléluia. Qu'il soit pour nous jour de fête, alléluia. Jour de fête et de joie, alléluia.
Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon Saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
C'était le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répond, tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem. Ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit, quels événements? Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, il leur dit, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Messie souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse, de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Et ils approchèrent du village où ils se rendaient. Et là Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais eux s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous car le soir approche. Et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais lui disparut à leur regard, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Et à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Que le Seigneur s'inscrive dans nos âmes. Il recouvre la surface de la terre. Sa présence toute glorieuse, incarnée et bénie. Elle pénètre en bénédiction toutes les âmes qu'il trouve assoiffées de sainteté toute pure, éternelle, immaculée et vraie. Pour qu'ils puissent voir s'ouvrir devant leurs yeux dès cette terre les portes de la Jérusalem Nord, libérées de toute entrave et lavées de toutes les fautes du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Le mercredi, c'est le quatrième jour de la semaine. Et l'Église a consacré le jour du mercredi à Saint-Joseph. C'est le quatrième jour de la semaine. C'est cette grande préparation à l'Eucharistie, Saint-Joseph. Va être le grand principe paternel, mais aussi dans la matière de la forme transsubstantielle de l'Eucharistie du jeudi. Voyez. Ça permet au vendredi d'être un jour de transverbération et au samedi d'être un jour de recueillement de tous les fruits des sacrements en Marie. Et c'est beau ce déroulement de la semaine. Hein. Il y a les anges, les âmes du purgatoire. Enfin, et puis alors, le Saint-Joseph, quoi. Quatrième jour, mais le premier jour, c'est l'Église primordiale. Et en plus, il y a, dès que cette Église primordiale, à cause du mystère de Marie, c'est une chose extraordinaire de ce qu'a fait la foi de Marie, des cinq choses qui lui ont été demandées au moment de la résurrection, hein, qui lui ont été demandées d'opérer, enfin bon, d'acquiescer en tout cas au moins, c'est de transférer, qu'il y a transfert par assomption, dans sa foi, dans le Verbe incarné, de l'Église primordiale à l'Église de la fin. Cette espèce d'alliance quoi, qui fait que l'Église de la fin et l'Église primordiale sont indivisibles désormais en elle. Hein, et elle est l'indivisibilité de l'Église primordiale et de l'Église de la fin par justement cette apparition, quoi. Cette apparition, ouais, cette apparition de la résurrection à son cœur et transfert pareil, quoi. Et à partir de ce moment-là, alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, il y a ce pèlerinage, quoi. Ce pèlerinage qui va être continuel, quoi, venant de Jésus, fils de l'homme, c'est-à-dire le Dieu vivant, venant sur les nuées du ciel, l'Église de la fin qui vient rejoindre la nouvelle Église primordiale qui est précisément cette humanité nouvelle dans l'Immaculée Conception. Et du coup, c'est ce qu'on disait, hein, on a médité ça. On a bien médité ce petit catéchisme du pèlerin d'Emmaüs. c'est qu'ils sont deux vers le pèlerinage. C'est le Père et le Fils. C'est la résurrection de... Une seule résurrection, un seul vers elle de Jésus, Joseph ressuscité, ils sont deux. Je la trouve belle, moi, cette leçon de saint François de Sales, docteur de l'Église, hein, elle est magnifique, que cette résurrection, c'est Jésus l'avait dit, hein, saint Jean, il note bien, il dit voilà. Ce que je vois faire à mon père, je le fais pareillement. Alors c'est beau de lire d'une manière au fond divine. Jésus, pèlerin d'Emmaüs, qu'est-ce qui se passe au fond? Regarde bien. Il leur ouvre l'écriture. Alors d'ouvrir l'écriture, c'est quand même... Il ouvre donc le mystère de l'incarnation à partir de cette indivisible résurrection qui fait ce vol de l'Esprit Saint, qui fait qu'il est précipité par l'Esprit Saint avec Saint Joseph dans l'épouse indivisible. Alors, c'est pour ça qu'ils sont deux, quoi. On l'avait vu, ça, et Doc Marie, et on le voit parce que c'est la même phrase donc que celle de l'apparition précédente. Ne me retiens pas, on essaie de les retenir. Et en même temps, ne me retiens pas, puis en même temps, l'autre qui dit, il fait semblant, alors, il fait semblant, ne me retiens pas, mais en même temps, retiens-moi. Alors Jésus reste avec eux, quoi. Pour nous, c'est important, ça. Pour moi, je trouve ça très, très, très extraordinaire. On devrait faire un catéchisme de l'ouverture de la Sainte Écriture pour comprendre comment Saint Joseph est envoyé par le Père. Jésus est envoyé par le Père. Et Joseph, c'est l'envoyé du Père aussi. Il faudrait faire un catéchisme, je trouve, moi. Il faut faire un espèce de catéchisme. Peut-être pas tout simple, parce que ce serait pas bien de dire toujours que c'est tout simple, alors que c'est pas forcément tout simple. Pourtant, je suppose que c'est ça, mais un catéchisme qui explique ce qui s'est passé avec Saint-Joseph. Disons qu'au minimum, hein, qu'est-ce qu'on peut dire au minimum à propos de Saint-Joseph? Au minimum, on peut dire au minimum ceci, c'est que Saint-Joseph a reçu la grâce chrétienne. Que Saint-Joseph vit de la grâce chrétienne. Jusqu'à Saint-Joseph, les Nachis d'Israël... Moïse, enfin le peuple de Dieu, vivait d'une grâce sanctifiante, hein, c'est une grâce messianique. Le peuple d'Israël vivait d'une grâce sanctifiante, ils pouvaient devenir des saints. D'ailleurs aujourd'hui, on les canonise, hein, à saint Abraham, Jésus lui-même a canonisé Abraham, Isaac et Jacob. Dans la bouche de Jésus, on voit qu'Abraham, Isaac et Jacob sont canonisés, quoi. Hein, ça c'est sûr que les justes sont des saints, ils vivent, ils sont justifiés, les justes sont justifiés. La justification implique la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante n'est pas apparue après la Pentecôte. La grâce sanctifiante existe déjà. La grâce sanctifiante, sous des modes différents, mais la grâce sanctifiante, Adam et Ève étaient dans la grâce sanctifiante. Et ils n'étaient pas seulement dans un état de nature parfaite, ils étaient aussi dans un état de grâce sanctifiante. Ils avaient une nature humaine parfaite et en même temps, ils étaient divinisés dans une sainteté qui s'identifiaient parfaitement à la nature humaine, la nature divine de leur grâce sanctifiante, s'entremêlaient de manière parfaite comme la lumière se mêle à la lumière, comme le vin se mêle à l'eau. La grâce sanctifiante, déjà, Daniel vivait la grâce sanctifiante. Le peuple d'Israël vit aussi d'une grâce messianique, qui est une grâce surnaturelle, qui est une grâce théologale, qui est une grâce sanctifiante. Mais c'est la sainteté du Verbe incarné du Messie qui vivait en eux. Ils vivaient du sang de l'agneau. Ils adoraient la sagesse incarnée clouée sur la croix. Le futur Messie crucifié, à tel point qu'on trouve même des stigmatisés dans l'Ancien Testament. Vous le savez, en David, Isaïe, le prophète, était stigmatisé. Et il vivait des plaies de Jésus, il vivait de l'intérieur de lui-même la messianité du Verbe incarné, du futur agneau, et il contemplait. Et puis, il était indivisiblement uni à la sainteté messianique de l'agneau. Donc, la grâce sanctifiante, c'est pas seulement avec l'Église catholique qu'on trouve la grâce sanctifiante. Hein, vous comprenez? Mais ce n'est pas le même mode, d'accord? Vous me suivez? Le mode de la grâce sanctifiante avec Adrien, c'est pas le même mode de la grâce sanctifiante. Avec les stigmatisés messianiques des grands saints, mais Siméon, par exemple, c'est inouï, quoi. Voilà, Siméon qui vit du sacerdoce, de la transverse, qui jaillit, qui est fécondé dans la chair sacerdotale universelle du peuple de Dieu à partir de la transverbération de Marie. Il le voit, il le contemple. D'ailleurs, s'il en fait la prophétie, vous savez bien ce que dit saint Thomas d'Aquin, tu ne peux pas faire une prophétie si tu ne vis pas de ce que dit ta prophétie, de la surabondance universelle de ce qu'elle signifie. Parce que quelquefois, on dit, saint Jean écrit l'Apocalypse, mais il ne pouvait pas savoir tout ce que Saint-Esprit avait mis dans l'écriture, pardon, Haggadah. L'inspiré est inspiré, est assumé par Dieu, il voit, il vit, il est transformé par cette inspiration, et du coup il se trouve face à face à tous ceux qui doivent la recevoir de sa propre surabondance, et du coup il l'écrit. Il le proclame, il l'écrit. Hein, c'est ça, hein. Donc il y a quand même quelque chose, quoi. Il y a quand même quelque chose de très extraordinaire qui s'est passé quand on voit qu'un saint comme Rabbi Anashi, dernier Anashi d'Israël, il proclame ce sacerdoce, que le sacerdoce de la sainteté toute pure messianique de l'agneau de Dieu s'évapore devant le sacerdoce issu de la transverbération du cœur de Marie. Et il le dit. Et il le dit dans le temple, c'est-à-dire dans ce qui représente le corps de l'homme comme étant le lieu de la présence paternelle de Dieu. Pour nous, c'est Saint Joseph. Hein, quand Dieu le Père se saisit hypostatiquement d'un corps humain, il se saisit de Saint Joseph. C'est pour ça que Saint au Père Olier, Saint-Vincent de Paul. Quand vous dites Père Olier ou Saint-Vincent de Paul, c'est la même chose. Il dit que Saint-Joseph, depuis qu'il est né, qu'il est conçu, il spire la substance divine, elle-même, de la nature divine, dans celle qui donne à la première personne de la Très Sainte Trinité, le Père d'être Dieu. Parce que Jésus, lui, il spire dans la nature humaine et incréée de Dieu, ce qui émane et fait l'hypostase du Verbe de Dieu. Donc, du point de vue de la sainteté, il y a une affinité entre la sainteté de Saint-Joseph et la sainteté de Jésus lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça ne peut pas venir de la grâce sanctifiante d'Abraham et de Moïse. Vous comprenez ça? Là, si je ne suis pas en train de faire une explication de méditation mystique, avec surabondance de la Homo sapiens. C'est une espèce de catéchisme, des petits points quoi, qu'il faut noter. Des petits points comme ça. Comme le petit pousset. Tiens, il y a un petit truc. Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est le premier à vivre de la grâce catholique. C'est le principe de la sainteté catholique. Alors voilà, deuxième petit caillou blanc pour Saint-Joseph, c'est que Saint-Joseph, bien sûr, ben, il n'est pas comme l'Immaculée Conception. Ben, bien sûr, mais voilà que d'un seul coup, ayant été créé comme ça, dans une liberté d'innocence, créé pourtant dans une justice substantielle, c'est-à-dire un ajustement parfait à sa prédestination, hein. À sa prédestination, c'est-à-dire au fait qu'il est dans l'Église primordiale qu'il est, et comme dans l'Église accomplie de l'au-delà du livre de la vie, il est celui qui est ajusté à la personne agréée du Père. C'est sa prédestination dans le Christ, et cette prédestination inscrit presque immédiatement dans le Christ, parce que l'existence qui est créée par Dieu dans un être humain l'inscrit, comme l'a expliqué Saint Jean-Paul II, dans le livre de la vie. Le livre de la vie n'appartient pas à l'Église antérieure, il n'appartient pas à une antériorité, il appartient à un accomplissement final. Il est inscrit. On peut dire, si vous voulez par là, si on voulait faire un petit catéchisme, on dirait que Saint-Joseph est le premier prédestiné. Et nous, par exemple, pour nous faire une comparaison, nous ne sommes pas prédestinés. Et il y a deux hérésies dans l'histoire de l'Église. Il y a les calvinistes. Les calvinistes disent qu'on est prédestiné. Quand Dieu te crée, il te prédestine à aller en enfer ou il te prédestine à aller au ciel. C'est pas vrai. Ce serait horrible, tu crois? Je ne sais pas si tu es d'accord pour ça, mais tu imagines que Dieu te crée au premier instant, au premier génome, et quand il te crée, tu es prédestiné à aller en enfer. Ben oui, avec les parents que tu as, c'est normal, il y a un psychologue qui va en enfer. ce serait pas bien, quoi. On voit bien que c'est hérétique. Et puis les jansénistes. Les jansénistes, c'est ça. Jansénius, c'est on est prédestiné. Mais non, il y a une seule prédestination, c'est Jésus. Jésus est l'unique prédestiné. L'unique en trois, trois en un. Et le premier prédestiné, c'est Saint Joseph. Voilà ce que je dirais ça, comme première note. Évidemment que l'Immaculée Conception, si l'Immaculée Conception, vous me dites que dans sa plénitude de grâce, l'Immaculée Conception n'est pas prédestinée, là je ne comprends plus, là, si ça veut dire que... Mais pourquoi? Parce qu'elle est l'expression substantielle, originelle, en plénitude reçue, dès sa conception, dès le premier instant de son existence, de la fécondité éternelle du Verbe de Dieu dans le sein du Père, spirant l'Esprit Saint dans la chair. C'est-à-dire, Jésus crucifié, quand son corps s'ouvre, dernier goutte d'eau et de sang, elle s'écarte, l'eau et le sang, dernier goutte d'eau et de sang s'écartent du voile déchiré du Saint des Saints, de Jésus crucifié, de son corps inerte. Et le Verbe de Dieu, donc, c'est complètement perdu dans une donation de passivité agréée, éternelle, substantielle, comme celle du Saint-Esprit. Donc on ne sait plus si c'est le Saint-Esprit ou si c'est l'épouset, inspiration passive. L'épouset, c'est-à-dire la deuxième personne de la très sainte Trinité. Alors on ne sait plus si c'est l'épouset, si c'est la responsabilité à l'état de passivité pure ou si c'est le Saint-Esprit qui est passivité substantielle. Saint-Esprit et la deuxième et la troisième personne de la très sainte Trinité, dans cet état-là, sont, on pourrait dire, entre guillemets, perdus. Quelque part aussi, ils peuvent se reconnaître l'un l'autre en contemplant l'autre, puisque aucun des deux ne se regarde lui-même. Ce qui serait une manière, vous voyez, de lire l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Ils sont peut-être deux à cause de ça. Et ils sont perdus. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'Immaculée Conception, elle est prédestinée dans le Christ. Et qu'il y a une affinité substantielle, on peut le dire, entre l'Immaculée Conception et l'agneau, c'est-à-dire l'interface incréée de l'union hypostatique des chéris de Jésus. C'est indissociable, c'est indivisible. Marie, dans son Immaculée Conception, ne fait pas nombre avec Jésus crucifié, enfin, avec l'union hypostatique du côté de l'éternité incréée de Dieu. Elle ne fait pas nombre. Ils sont un. Et donc, elle est prédestinée. Mais tu ne peux pas non plus séparer quelque part. Et c'est là, il y a un lien quand même de nécessité. Il y a quand même un lien de nécessité entre l'existence, la manifestation du Fils et la manifestation du Père. Celui qui me voit, voit le Père. Entre la manifestation dans l'au-delà du dispensal, la manifestation de l'époux, la manifestation de l'épouse. Et donc, si le Fils est manifesté comme ça, de cette manière, dans une double prédestination qui n'en est qu'une seule, et bien forcément, ben Saint Joseph est ajusté substantiellement à cette double prédestination en une seule. C'est pour ça que la prédestination n'en a qu'une. Il n'y a que le Christ qui est prédestiné, et pourtant, il se manifeste en trois prédestinations. Trois prédestinations en une seule prédestination. Mais nous, nous ne sommes pas prédestinés. Et Saint Joseph, lui, quand il est créé par Dieu, bien sûr, il est créé par Dieu, immédiatement inscrit dans le livre de vie, dans son acquiescement libre, et extraordinaire à tout ce qu'il doit faire et tout ce qu'il doit traverser pour... Mais c'est le roi d'Israël, c'est la sainteté dans la paternité agréée de Dieu universel du monde. Du monde du temps et du monde de l'éternité, c'est la paternité primordiale. Et donc, il reçoit la parole du monde angélique. Le premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et dans le primordial, nécessairement, il y a la séparation de la lumière et des ténèbres. Et Saint Joseph est, en tant que prédestiné, de ce point de vue-là, en tant que prédestiné, comme manifestation primordiale, il est forcément confronté à la séparation de la lumière et des ténèbres. Ce qui fait en lui un arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans toi, en toi, quand Dieu t'a créé? Qu'est-ce qui s'est passé à la propagation du péché originel? Ce serait bien que tu t'en rappelles, hein, plutôt que t'occuper de d'autres trucs complètement idiots. Les gens perdent leur temps, 50 ans de leur vie. Truc, alors c'est ça qui... Est-ce qu'on peut se rappeler? Oui, bien sûr, on peut se rappeler. Ah, ça ne m'intéresse pas. Ah, si ça ne t'intéresse pas, alors à ce moment-là, d'accord. On se reverra. Je ne sais pas où. En tout cas, Saint Joseph, c'est sûr qu'il y a un arrêt. On le voit dans l'Évangile, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, à chaque fois, hein, il y a un arrêt chez lui. Ah. Hein? Après cet arrêt, tout de suite, il fonce. Hein? Ça ne dure pas longtemps. Hein? Ça ne dure pas longtemps. C'est infime. C'est extrêmement délicat. On pourrait dire quasi infiniment délicat. Mais il y a toujours un arrêt chez lui qui exprime précisément ce qui s'est passé chez lui. Ce grand prédestiné, on peut dire, il y a un arrêt. Il dit, attends, je ne peux pas faire quelque chose. Tu te rends compte? Il doit dire oui au moment de la séparation de la lumière et des ténèbres, la propagation de péché qui... Normalement, quand ça t'arrive dessus, il y a un arrêt, et puis vite, tu te précipites dans la lumière. C'est ce qui s'est passé pour lui. Mais il y a eu un arrêt. Et cet arrêt a fait sa participation à la propagation du péché. Est-ce qu'il ne s'est pas passé pour Marie, l'Immaculée Conception? Elle n'a pas eu un arrêt, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle, dès le premier instant, avec la propagation de la lumière et des ténèbres, elle était déjà dans la lumière. Elle n'a même pas regardé qu'il y avait la propagation. Elle était immédiatement sauvée par son acquiescement libre dans une plénitude de grâce accomplie. Dans la prédestination accomplie, la Jérusalem glorieuse assumée, elle était finalement, elle a connu une première assomption dès le premier instant de son Immaculée Conception. D'accord? Mais Saint-Joseph, non, Saint-Joseph, et c'est pour ça que quelque part, il sait en même temps, hein, c'est ça hein, l'innocence divine d'origine, l'intelligence qui est la nôtre, hein, le nous, l'intelligence pure, la mémoire, c'est-à-dire cette union indivisible avec la lumière acquiescente de l'amour éternel de Dieu que nous sommes dans une petite goutte de sang, et inconsciemment, et puis cet amour du cœur spirituel plongé dans les béatitudes absorbantes de Dieu, dans un théâtre prodigieux qui assume tous les temps, et surtout l'instant présent dans lequel nous sommes et les secondes qui suivent, nos trois puissances spirituelles sont actuées de manière parfaite. Hein. Et il convient quand même de s'en rappeler, c'est ça la Memoria Dei. Si on n'utilise que son cerveau, c'est un peu triste. C'est important, parce que et bien Saint Joseph voit, il est comme ça, et en même temps il est inscrit dans le livre de vie. J'aime beaucoup ça, dans l'Evangelium Vitae de Jean-Paul II, il dit qu'à l'instant où tu es créé, les secondes qui suivent, si tu préfères, bon, et l'instant, ça dure finalement peut-être assez longtemps, hein. À ce moment-là, tu es inscrit dans le livre de vie qui est que tu retrouves, et en même temps tu as ton ange gardien, qui lui, il a l'odeur de ton inscription dans le livre de vie uniquement. Il n'a pas du tout l'odeur de ton innocence originelle, il a l'odeur de ton, il a l'odeur de ta sainteté éternelle à la fin, en plénitude reçue, accomplie, glorieuse. Ton ange gardien, c'est celle-là qu'il a, lui. C'est ce visage-là qu'il a, lui, mais d'une manière angélique, c'est-à-dire dans une intériorité sans aucune limite et sans fin. Et c'est l'ange de l'hypostase incréée du Père, pour Saint-Joseph. Ça, c'est absolument certain. Verset 19, développe du Nouveau Testament. Donc, catéchisme de Saint-Joseph. Et il faut qu'il dise oui, il va y avoir des millions, des milliards peut-être, de saints qui vont vivre de la grâce sanctifiante. Oui, des milliards et des milliards, hein, qui vont reproduire la sainteté de Dieu le Fils, de Jésus. Et il n'y en a qu'un qui est prédestiné à reproduire la sainteté de Dieu le Père seul. Il doit dire oui. Il y a un arrêt dans son innocence divine. Le juste par excellence. C'est pour ça qu'il y a une infinité, hein, avec la prédestination de l'Immaculée Conception et que les deux permettent qu'il y ait la rédemption. Parce qu'il apporte avec lui la nécessité de la rédemption. Il est donc co-rédempteur nécessairement, par nécessité. Est-ce que vous comprenez? Bon. Alors, ça, c'est la troisième pierre du catéchisme. Quatrième pierre du catéchisme. Petit à petit. Des choses que vous connaissez par cœur, puisque hein, depuis le temps que vous... Tant qu'on s'entend si bien ensemble, on a entendu ça des dizaines et des dizaines de fois. Ça fait 30 ans qu'on entend ces discours, vous comprenez alors. Donc on sait très très bien tout ça. Et c'est... Ça fait pas 30 ans, ça fait 2000 ans qu'on entend ces discours. 2000 ans. C'est le quatrième point du catéchisme sur Saint-Joseph. Ce serait de dire, mais qu'est-ce qu'il va en faire de tout ça, Saint-Joseph ? Étant donné qu'il va, il retrouve cette prédestination dans le livre de la vie, à l'intérieur de son infinité, c'est-à-dire l'au-delà de l'unité des deux, de sa spontanéité avec l'Immaculée Conception, dès le principe et dans l'accomplissement de la fin, eh bien, il est bien évident que l'Immaculée Conception, c'est une grâce chrétienne de Jésus crucifié. Et donc Saint-Joseph est nécessairement irrigué dès le départ par une plénitude de grâce sanctifiante. Mais il n'est pas l'Immaculée Conception. Hein. Ce n'est pas l'Immaculée Conception numéro 2. Puisqu'il y a un pécheur originel. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc c'est le premier à vivre de la grâce sanctifiante chrétienne. C'est le premier membre vivant du Christ vivant dans la chair, dans toute l'histoire de l'humanité. C'est quand même génial de savoir ça, quand même. Non? Non, vos trucs, c'est pas génial, vous. Bon, non, vos trucs, non, non. C'est commun, quoi. C'est du déjà vu, hein? Vous avez, d'accord, je vais bien, c'est déjà vu. Mais, bon, alors donc passons au cinquième. Alors, cinquième pierre du catéchisme. Bon, si, la cinquième pierre du catéchisme, je dirais. Mais on avance petit à petit, c'est ça qui est beau, hein, on avance. Mais si tu vis de la grâce sanctifiante, à l'état de plénitude reçue et accomplie dès le premier instant, c'est de plus en plus. Pourquoi? Parce que dans la grâce sanctifiante rédemptrice chrétienne, il n'y a aucune cause diminuante. Une grâce sanctifiante chrétienne ne peut qu'augmenter. Si elle n'augmente plus, elle n'est plus chrétienne. Une grâce sanctifiante qui n'augmente plus n'est pas chrétienne. Hein? Ah, ça y est, moi j'ai la grâce sanctifiante, donc... Ah, bouge plus jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est pas catholique. Ça. C'est sûrement pas, c'est pas chrétien. C'est pas une grâce chrétienne. Et, ah, je suis fixé. Je suis arrivé à la dixième hiérarchie. Hein. La septième demeure, c'est pour les imbéciles. Moi, je suis à la huitième. Qui n'existe pas, mais j'ai pas besoin de vous expliquer qu'elle n'existe pas. Mais ça, c'est un autre problème. Mais, donc, je ne peux pas aller plus haut. Donc, ça arrête. Ah, mais vous savez, depuis 3 ans, je suis toujours dans la même lumière. Hein, toujours les mêmes lumières. Tchou, 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 tchou. Mais une grâce qui s'approfondit pas, une grâce qui n'augmente pas, qui ne se rabonde pas de manière spectaculaire, n'est plus une grâce chrétienne. Si tu restes accroché à tes trucs, à tes œuvres de sainteté chrétienne sur la terre, c'est plus catholique, c'est fini. Une désappropriation pour que ça aille beaucoup plus loin. Et bien Saint Joseph, voilà, cinquième pierre du catéchisme de Saint Joseph, n'a jamais laissé la grâce qui était la sienne, sans qu'elle se développe de manière particulièrement prodigieuse. Il ne s'est jamais accroché à lui-même. Il s'est toujours accroché à l'agneau, à l'union hypostatique déchirée, dans l'interface intérieure de l'incréé, pour s'en nourrir, et pour aller bien sûr, évidemment, beaucoup plus loin que la grâce sanctifiante, chrétienne rédemptrice. Il s'est toujours accroché à l'autre-là, dans l'incréé divin, de la sponsalité, de l'Esprit Saint avec ce que Marie vit dans l'au-delà de sa sponsalité surnaturelle parfaite et quasi ancrée avec lui. Donc il est toujours au-delà, dans l'indivisibilité de l'au-delà des deux. Il y a une seule au-delà dans l'indivisibilité des deux. Et donc il va toujours plus loin, toujours plus loin. Et c'est pour ça que la transformation de la matière, hein, de l'univers s'est faite comme ça, parce que vous le savez, hein. Je ne sais plus. J'avais calculé le chiffre. Mais dans un corps humain, vous voyez, par exemple, vous faites oraison. Hein? Quand Saint-Joseph fait oraison, ça devait être quand même assez balèze. Quand Jésus priait, quand Marie priait, la transfiguration, par exemple, de Jésus. C'est un moment où, évidemment, Marie était transfigurée aussi. Hein? Sinon, il n'y avait pas eu... Puisque la transfiguration est une propriété qui appartient de droit à la sponsalité, hein, dans son acte, lorsqu'elle est actuée. Bon, et là, j'avais fait un calcul, je ne me rappelle plus du tout, c'est dommage. Mais lorsque ton corps est... il se renouvelle ton corps. Je crois que c'est, je ne sais plus combien... Si ce n'est pas 1 million de nouvelles cellules chaque seconde, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Il faudrait que je regarde, mais mes papiers, là, c'est dans le monde nouveau, Reine du Sacré-Cœur, dans les annexes, là. Ou aussi dans Mémoire anthologique, recension, quand il vient de sortir. C'est marqué là-dedans. En tout cas, les cellules se renouvellent. C'est d'autres cellules tout le temps. Mais bon, c'est beau ça, parce qu'effectivement, les nouvelles cellules qui apparaissent pendant une demi-heure de transfiguration ont la détermination du monde incréé qui vient en donner la nouvelle détermination. Et ces cellules-là sont incorruptibles, elles ne peuvent pas mourir. C'est ce qui explique d'ailleurs que Joseph puisse ressusciter d'entre les morts intégralement. Mais ça, c'est pas ce que je voulais dire, parce que c'est pas du tout le cinquième point de mon catéchisme. Le cinquième point du petit catéchisme de Saint-Joseph, ce serait de dire, ça c'est les cellules vivantes, c'est la chambre la plus petite de la vie, c'est les cellules. Mais chaque cellule, c'est un ensemble de séquences génétiques, de liposomes, de ribosomes, de molécules, etc., lesquelles sont évidemment composées d'atomes, lesquelles sont composées de particules élémentaires, quarks, tout ce que vous voulez, hadrons, etc. Et là, pour une seule atome, il y a je ne sais pas combien de tachyons. Mais si pendant... Si... Et je ne sais pas si... Or, il se trouve que... dit ça au moment où on est où ils veulent nous briser ça quand même, hein. Ils veulent nous briser ça aujourd'hui quand même. C'est en ce moment qu'ils veulent nous briser ça, hein. Nous briser cette espèce d'ordre de sagesse dans le monde tachyonique quand même. Bon. Alors, ça veut dire quoi c'est, moi quand je me rappelle les premières fois que j'essaie d'expliquer la chose que j'avais trouvé de génial, ce sont ces trucs qu'on trouvait dans certains salons il y a 30 ou 40 ans. Il y avait des pendentifs comme ça, avec des boules d'acier comme ça. Il y avait 7 ou 8, 12 ou 15 boules, je sais pas quoi. Tu prenais la boule du bout là, tu la soulevais, clac, tu la lâchais, paf, et pouf, il y avait une autre qui rentrait, l'autre qui partait. Mais le bas restait toujours immobile. Le bas restait toujours là, toc, toc. Toujours immobile. C'est ce qui se passe avec les particules élémentaires de notre corps. Notre corps a perdu toutes ces particules élémentaires, toutes, en une heure. Donc, c'est parti. Et tachyon, ça veut dire que c'est parti dans un espace, dans une dimension... dans une dimension non spatiale, puisque les tachyons vont plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, ça va, dans tous les espaces en un seul instant. Ça va. Je ne sais pas si vous voyez l'action que nous avons sur l'ensemble de notre univers. Si c'est dans un état de transfiguration et de résurrection, hein, que notre corps est agissant, je ne sais pas si vous voyez ce que ça opère, comme c'est inouï, c'est inouï. Et puis aller et retour, évidemment. Ben Saint-Joseph, ça de plus en plus, ça y est, oui, vous avez compris. Grâce sanctifiante. Ah, son corps, le corps de Saint-Joseph, fait intégrer l'ensemble de l'univers à l'intérieur de l'hypostase trinitaire. Et ceci selon les lois de la nature du corps et de la matière. Parce que la matière, eh bien, elle est en affinité avec l'église primordiale du Bereshit, et le monde vivant est en affinité avec le monde de la Trinité. La même maladie originelle. Hein? D'accord? Donc vous voyez, donc pour Saint-Joseph, c'est ça le cinquième point, c'est que cette fois-ci le corps est intégré à l'intérieur, hein, donc de l'union transformante, de la grâce sanctifiante chrétienne. Est-ce que ça va? Dans une transformation prodigieuse. Or, il faut que ça respecte aussi les lois donc de la sagesse créatrice de Dieu, et il se trouve que Dieu a voulu que dans sa sagesse créatrice, que le corps, dans sa cellule vivante primordiale, et minimum si vous voulez, le corps se renouvelle totalement au bout de 10 ans. Donc, pour la purification de pécheurs, 10 ans. Pour la divinisation, 10 ans. Donc, il faut être dans sa 20e année pour arriver au mariage spirituel total, complet et accompli. Pour qu'il puisse être assumé corps, âme et esprit dans l'hypostase de sa prédestination instrumentale vis-à-vis de la substance de la divinité de la première personne de la très sainte Trinité. Voilà pourquoi, sixième point du catéchisme de Saint-Joseph, quand il a 19 ans, parce qu'il n'a jamais perdu une seule seconde, dans la demande de pardon, il demande pardon tout le temps, il demande pardon tout le temps, il demande pardon tout le temps, il demande pardon tout le temps. Il pardonne tout, tout le temps, il pardonne tout, tout le temps. Il reçoit le pardon tout le temps. Et pour tous, c'est le roi. Hein. Il demande pardon tout le temps, il demande pardon tout le temps. Jamais tu verras Saint-Joseph qui ne demande pas pardon. Tout le temps, il demande pardon. C'est celui qui demande pardon. Qui pardonne, mais... ça pardon. Et selon les lois de la nature et de la grâce et de la sainteté. Voilà. Et c'est pour ça que, à l'âge, voilà, le sixième point du catéchisme Saint-Joseph, que vous connaissez bien maintenant, c'est que du coup, là, il peut être assumé. Il peut spirer de l'intérieur de son unité corps, âme et esprit, la substance divine de la paternité incréée, de la première personne, de la très sainte Trinité. Et c'est pourquoi, à partir de là, Dieu peut créer et faire sortir de lui, comme d'un époux, son épouse, et c'est ainsi que l'Immaculée Conception émane de Saint-Joseph. Pas tout seul, c'est pas Saint-Joseph tout seul. Ça n'est pas sans l'unité sponsale absolument accomplie, en plénitude reçue, des parents de l'Immaculée Conception. Ça n'est pas non plus sans l'union hypostatique déchirée de Jésus, qui s'engloutit à l'instant même de ses 36 heures, son union hypostatique déchirée dans sa transverbération, pour la constituer dans son principe et dans sa fin. Ce que dit le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, une fois Marie, puis tiens, je ne te lâcherai plus que je t'ai fait rentrer dans la chambre de ma mère, dans le lit de celle qui m'a conçue. C'est beau. Comment les Juifs commandent ce verset du Cantique des Cantiques, c'est à cause de ça que Rabbi Rashi a fait intégrer le Cantique des Cantiques dans le canon des Écritures. Et les apôtres ont confirmé. Et ça, c'était l'an 90 après Jésus-Christ. Et c'est les Juifs qui ont mis à cause de cette phrase, cette cause que j'ai. Quand Marie est au pied de la croix, elle dit, je te tiens, je ne te lâcherai plus, que je t'ai fait rentrer dans la chambre de ma mère, dans le lit de celle qui m'a conçue. Elle a trouvé l'instant de son Immaculée Conception dans son origine. Elle s'est identifiée à ce qu'elle était. Et Saint-Joseph est à l'origine de cette unité primordiale de l'union hypostatique de Jésus et de l'Immaculée Conception elle-même dans sa propre substance, lorsqu'elle se découvre elle-même dans ce qu'elle est, au premier instant de sa conception, et dans sa manifestation reconnue, primordiale, épanouissante dans le lieu du ciel et de la terre. Il en est le principe. C'est quand même important de comprendre ça quand même. Voilà, bon, il avait 19 ans, donc on attend tranquillement. La Sainte Écriture s'ouvre. La Sainte Écriture dit, bon, ben à 12 ans, le garçon fera sa bar mitzvah et la fille à 13 ans sortira du temple. Voilà, à 13 ans, donc elle sort du temple. Et puis du bâton, comme l'explique l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 4, et ben, du bâton de Moïse, pris dans la main de Saint-Joseph, elles sont sorties comme ça. Trois lys miraculeusement. Ce n'est pas une légende. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Littéralement. C'est dans l'Épître aux Hébreux. Et donc il y a eu le mariage de Marie et Joseph. Et voilà Et voilà donc, au bout de 33 ans, comme l'explique le prophète Jérémie, et ainsi le roi David aussi, dans le livre des chroniques des rois d'Israël, à l'âge de 33 ans, eh bien, on a donc la prédestination du Christ est présente à l'état de puissance et dans son acte. C'est pourquoi l'ange Gabriel apparaît dans le temple et dans le Saint des Saints, le jour du mariage de Marie-Joseph, dans la cité de David et dans le Saint des Saints. Il ne faut pas mettre Saint-Joseph en dehors de tout ça quand même. Il y aurait un problème. C'est quand même le septième point, quand même. C'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ça. Ça les choque. Je connais des gens qui sont choqués. Hein. Pas si longtemps que ça, il y a une semaine. Il est sorti d'ici révolté. Parce que bon, j'ai expliqué l'apparition de Saint-Joseph à Cotignac parce que cette personne allait à Cotignac. Dieu, vous verrez, il a sauvé un rocher, et du coup l'eau a jailli du rocher. C'est comme ça que ça s'est passé, je peux rien, c'est pas de ma faute. Et le rocher, ça signifie picot et roca en provençal. Bon, ça veut dire que c'est lui qui montre qu'elle soulevait qu'elle était rocher, et le trou s'est fait, et l'eau est sortie. Donc il montre dans l'apparition de Cotignac qu'il a une participation dans son acte, dans son opération personnelle, directe, à l'ouverture du rocher, la blessure du cœur de Jésus. Alors je dis, ça rejoint au fond l'intuition de saint Vincent de Paul et de saint François de Sales, je disais à ce théologien qui est un laïc, évidemment. Et ça montre quand même qu'il a une participation à la rédemption du monde. Si vous allez à Cotignac, c'est bien, c'est parce qu'au moins vous allez pouvoir boire de cette eau là-bas, qui manifeste que Saint-Joseph participe dans son acte, dans son opération propre à la rédemption du monde. Je n'ai pas dit quelque chose de qui vous paraît choquante. Eh bien, lui était révolté. Mais il n'a pas montré. Mais je l'ai su après. Pendant 3 jours. Il n'est pas sorti de sa fureur. Curieux, ça. Il y a des colères, ça, on ne sait pas d'où elles sortent. Ça, on ne sait pas d'où ça vient. Ça te surprend. Ça, c'est la signature du démon. Quand tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne t'y attends pas. Voilà, mais c'est le septième point est drôlement important, je veux dire qu'ils sont trois. Et à la résurrection, le huitième point. Il faudrait mettre le huitième point à l'union hypostatique des chéris de Jésus, c'est ce qu'il faudrait faire en commentant le cantique des cantiques. Et puis le neuvième point, bien sûr, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Saint-Joseph qui, avec Jésus, enfin les deux en un, une seule résurrection, dans l'au-delà d'une spensabilité unique, parce que l'indispensabilité est indivisible. La trois spensabilités en une seule spensabilité, et avec une seule spensabilité bien entendu, comme l'avait expliqué Jésus au Sadducéen, qui s'enfonce dans le cœur de Marie, qui se fait reconnaître dans l'Eucharistie, et pour que l'interface sacrée d'Immaculée Conception s'enfonce et caresse la nature humaine du sacerdoce joannique en elle. Et donc, Joseph, inséparément de Jésus, évidemment, inséparément de Dieu le Père, évidemment, pas tout seul, est le principe de la présence réelle du sacerdoce, victimale éternelle de l'Église tout entière jusqu'à la fin. Tandis que Marie, elle est la mère de la présence réelle du sacrifice, la présence réelle du sacrifice dans l'Eucharistie. Et donc les pèlerins d'Emmaüs, c'est la révélation que le Joseph est source du sacerdoce et Marie source de la présence réelle, victimale, eucharistique, dans le pain que nous mangeons. C'est pour ça que Jésus disparaît dès que le pain est rompu, le pain est déchiré. Est-ce que vous voyez? Oui, je m'excuse, hein, j'ai pas fait un petit mot cette fois-ci en le priant. J'ai fait un petit mot juste comme ça, en mettant des points.
Un truc, un jour vous avez dit que l'âme de Marie et de Jésus ont été créées avant la création du monde. Ça y a un rôle.
Non, c'est pas avant la création du monde, dans le Bereshit.
Dans le principe.
Dans le Bereshit. Dans le Bereshit, Moïse, le Messie a enseigné à Moïse que dans le Bereshit, il y a 6 éléments. Hein? Voilà. Donc,
c'est un principe même.
C'est un midrash de Moïse. C'est un enseignement. Ça fait partie de la tradition orale de la foi des Juifs. Hein? Tu vas sur Internet, tu fais Bereshit, midrash de rabbinique. C'est un enseignement qui nous appartient aussi, on est chrétien, mais qui appartient à l'enseignement infaillible de la doctrine messianique du peuple d'Israël. Dans le Bereshit, il y a 6 choses. Hein. C'est pour ça qu'il y a 6 jours de création, etc. C'est pour ça qu'on va pouvoir commenter les 6 jours de la création en fonction de ces 6 choses qui sont dans le Bereshit. Hein. Mais bien sûr qu'il y a le Messie qui est présent dans le Bereshit. L'impératif de l'amour de Dieu et du prochain en une seule hypostase. Bien sûr. La Torah est présente. C'est l'impératif de l'amour de Dieu et du prochain dans une seule. Dans un seul feu brûlant. Hein. Bien sûr. Le temple, mais bien sûr que le temple est là, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, où le Père est présent, n'est jamais envoyé dans un état de vulnérabilité, de fragilité totale. C'est aussi dans le Bereshit. L'Arche d'Alliance, mais bien sûr, l'Immaculée Conception. Tout ça, ces 6 points sont. Il faut lire le Midrash, bien sûr, il faut connaître la tradition infaillible des saintes de c'est notre foi, hein. Mais c'est vrai que notre foi, elle est brûlée complètement par l'union hypostatique déchirée de Jésus et complètement revêtue de l'intérieur par le Verbe de Dieu dans la transverbération. Hein. C'est pour ça qu'il faudra revenir souvent à nos prières de la nuit. Cette fameuse prière qui a été inspirée à Chantal Cordier. Hein, c'est ça.
C'est celle qui avait les. C'est déjà Chantal Cordier.
Ben, c'est la guérison du corps. Hein. C'est celle où la nuit, on s'est presque habitué maintenant à dire le chapelet angélique. Hein. Et puis à dire la prière curative.
Chantal Cordier, c'est celle qui a fait. Quoi? Non, je ne sais plus qui c'est Chantal Cordier.
Sacha.
Sacha.
Ah oui, Chantal Cordier, oui, je ne me rappelle plus.
Ouais. Une vraie splendeur.
C'est à elle que ça avait été inspiré.
Ouais.
Je savais pas.
C'est
temps. Il y a combien de temps?
Alors, écoute, je te donne son téléphone si tu veux, tu demandes. Hein.
je savais pas que c'était elle. J'ai dû entendre, je m'en rappelle plus.
Ah oui, c'est bien sûr, elle est la prière curative de guérison.
C'est pour ça qu'elle
est parfaite. Elle est parfaite.
Hein. Oh, elle n'arrête pas, mais d'accord.
Ça ne peut pas venir d'elle, hein. C'est impossible.
Hein. Ouais, ouais. Prière, d'accord.
Ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, être un instrument divin, qu'est-ce que je vous dis, c'est bien. Et ça ne veut pas dire qu'elle sait pas ce qu'elle... Elle sait très très bien, donc quelque part, c'est vrai, c'est vraiment une... C'est vraiment quelqu'un du monde nouveau, ça, il n'y a pas de doute.
Hein. Une fois, on en a parlé pendant une heure.
Pas l'ombre d'un doute, ce qui ne veut pas dire qu'elle a passé ses combats, qu'elle ne doit pas progresser, aller dans une sainteté infiniment plus grande, comme nous, chacun d'entre nous, comme Saint-Joseph. Hein. jusqu'à ce qu'on arrive au mariage spirituel, on peut être assumé pour que le monde nouveau arrive. Dans une plénitude reçue, n'est-ce pas, frère Jean-Marc ? Voilà, et donc, pour nous, ce mercredi est important de Pâques, parce que c'est ce mercredi des deux pèlerins d'Emmaüs qui nous montre ce qui se passe dans cette spontanéité de la résurrection avec dans le cœur de Marie. À l'apparition de l'Eucharistie, elle devient la mère de la présence réelle jusqu'à l'accomplissement des temps, de l'offrande victimale de Jésus. La résurrection se prosterne en Marie devant la déchirure du nez apostatique déchiré de Jésus et la rend présent dans le mystère eucharistique jusqu'à la fin. Présence réelle. Marie est mère de l'Eucharistie et avec Joseph, glorifié, elle est mère du sacerdoce. Parce que l'interface incréée va donc descendre. Et ça, c'est ça, avec Marie Stella, le chant qu'on chante. Ça va descendre, ça va caresser intérieurement toute la nature humaine, sacerdotale, d'amour éternel de l'Église catholique. Saint Joseph, c'est le père de l'Immaculée Conception. Du moins, c'est le principe de l'Immaculée Conception, mais c'est le père du sacerdoce. Selon l'ordre de Melchisedec. Après, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Une fois que vous avez bien contemplé ces neuf points, vous pouvez les contempler, les intégrer, les faire surabonder, transformer toute la matière tachyonique et aussi toute la matière primordiale de la première goutte de sang que vous êtes, c'est-à-dire la concentration de l'amour éternel de Dieu dans une seule petite goutte de sang vivante. Vous les faites comme ça, vous mélangez ces neuf points. Et puis après, faites oraison une demi-heure, vous allez voir les délices. Vous allez voir si un seul démon s'approche pour vous faire un seul mouvement. J'en serais très étonné.
On a du poulant, non ?
Hein ?
On a du poulant.
Hein ? On a du boulot. On a du boulot.
Ça va bien, Radon ? T'as pas compris.
Il entend pas bien.
Il aveugle. Il est devenu pas aveugle.
Oui, c'est toi.
Ah non.
Retour à la maison, frère Jean-Marc.
Comment ?
Retour à la maison, frère Jean-Marc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le bonheur de revoir leur enfant, l'enfant de Dieu parmi nous. De la lumière qui descend jusque-là. Les mains de Dieu qui font naître l'enfant, qui berce. Le retour de l'enfant.
Oui.
Amen. Étant, je vous demande pardon, hein. Je demande pardon pour tout. Hein. Ah, je demande pardon pour tout.
On peut demander pardon, nous aussi.
Oui.
On peut demander pardon,
oui, bien sûr.
Pardon, Père. Pardon.
Pardon.
Pardon, tous. Amen. Par ça.
On va demander, donc si vous voulez bien, pendant cette Eucharistie, à notre âme de s'effacer, pour que dans cet effacement, il y a descente dans l'au-delà, déclare la résurrection, d'une nouvelle incarnation eucharistique de Jésus pour demander pardon. Pour l'abomination. Parce que notre nature humaine vraiment incrustée qu'elle est dans la préoccupation de l'heure et du temps, elle est vraiment, vraiment, vraiment dans cette spiritualité de la dévastation de la paternité agréée de Dieu. Elle y est vraiment inscrite, et même les catholiques, et peut-être surtout les catholiques. Et donc, il faut que nous puissions nous effacer et laisser la possibilité à la victimation éternelle du Verbe de Dieu et du Père, dans la responsabilité du Saint-Esprit, exprimer dans l'Eucharistie cette demande de réparation au nom du Saint-Père. Et ceci tous les jours, à 18h. Et si ça doit durer 4 heures, très bien. Si ça doit durer 5 heures, c'est très bien. Mais voilà, il faut qu'il y ait cette descente eucharistique à partir de la créée du Verbe de Dieu, se ressaisissant des gloires de la résurrection pour s'enfoncer à nouveau dans l'offrande victimale. Et que la réparation se fasse. C'est le seul moyen de briser l'opacité invincible du méchant pour redescendre dans le saint des saints, où la paternité vivante de Dieu dans notre humanité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si quelqu'un trouve une autre possibilité, qu'il nous écrive. Ça devrait intéresser l'humanité tout entière.